Isabelle Perron est avec Isabelle Perron.
Isabelle Fontaine est avec nous. Salut Isa.
Salut, ça va, bon en retour.
Oui, merci.
Les mêmes sujets, Isabelle Perron. Oui, Isabelle
non,
Fontaine.
Pas tout à fait.
Même prénom, champ d'intérêt différent.
Pas exactement. On parle d'eau potable. C'est drôle, on vient de parler justement d'eau potable. On fait presque la suite, mais dans un autre secteur.
On fait presque la suite dans un autre secteur, mais juste pour revenir sur l'entrevue, hein, on disait qu'il y avait beaucoup d'élus qui se mobilisaient autour des causes environnementales. Je trouve ça fascinant, depuis l'élection du 1er octobre, à quel point, soudainement, nos élus sont engagés pour les enjeux environnementaux. On l'a vu, hein, des ministres dans la manifestation en fin de semaine, les élus qui appuient les citoyens dans le cas de Coventry ici. Beaucoup d'élus s'engagent. On sent que quelque chose se passe. Espérons que ça se traduira par des trucs concrets.
As-tu vu les manifestations en fin de semaine?
Exact.
Tu sais, il y a beaucoup de gens. Les gens se sont mobilisés. Je pense qu'on sort... Il était temps que les gens se réveillent, remarque, là. Mais on sort de ce qui était traditionnellement... Écoute, il y avait un gros cliché. On disait, c'est la gauche, les étudiants, les poteux. Tu te rappelles, quand on parlait
absolument
de causes environnementales, tout le monde regardait ça en se disant, c'est tout le temps le même groupe d'extrémistes. C'est pas ça, là.
Non, c'est plus ça. Là, ça devient une cause largement partagée où tout le monde doit s'engager, où on doit faire des gestes individuels, mais que ça doit s'accompagner, je pense que tout le monde le reconnaît, de gestes collectifs forts, de coercition ou en tout cas d'orientation de nos comportements individuels comme collectifs.
Et là, enfin, les citoyens de Val-Joli, qui n'ont pas d'eau potable depuis 6 ans, pourraient en avoir en 2019.
Ne dis pas enfin, moi je trouve ça hallucinant. 6 ans sans eau potable, 6 ans au Québec, là. Pendant 6 ans dans ta maison, tu peux pas prendre ta douche pendant plus de 10 minutes, tu peux pas donner le bain à tes enfants, tu peux pas boire l'eau du robinet, évidemment. Faut que tu fasses la vaisselle avec un ventilateur parce qu'il y a des émanations de benzène pendant 6 ans. Peux-tu croire? C'est complètement incroyable. Puis l'autre affaire, c'est de vivre pendant 6 ans avec l'inquiétude de ces répercussions-là à court, moyen, long terme pour ta santé, celle de ta famille, de tes enfants, pris dans une maison que tu as acheté, mais que tu peux plus vendre.
Exact. Tu essaieras de la revendre maintenant. Impossible.
C'est une catastrophe humaine incroyable. Puis on laisse des gens dans cette situation-là depuis tout ce temps-là. Mm-hmm. Puis il y a tellement de questions à se poser sur ce dossier-là à Val-Joli. Le premier, c'est il y a une source de contamination qui serait une ancienne station-service fermée. Puis ce qui est sorti dans les journaux ces derniers jours, c'est que ça continue d'émaner de cette source de contamination-là, puis que ça pourrait se propager à d'autres résidences. Hey, ça fait 6 ans, on n'a pas encore contrôlé la source de la pollution. Ça, c'est la première affaire. Donc, on met à risque la vie, la santé d'un plus grand nombre de personnes. La deuxième chose, la solution semble simple. On raccorde au système d'aqueduc de Windsor. Mais là, les enjeux bureaucratiques, le temps que ça prend pour régler la situation, le coût du projet est passé de 1,6 million il y a 2 ou 3 ans à 2 millions maintenant. Ça va continuer d'augmenter tant et aussi longtemps que ça
dure. La différence n'est pas grosse, sauf qu'on parle de Val-Joli.
Mais la différence n'est pas grosse. Mais
plus tu parles de petites communautés, chaque dollar fait une grosse différence.
Fait une grosse différence, mais en même temps, 1,6 million ou 2 millions, tu sais, c'est quoi pour le gouvernement du Québec au nom de la santé et de la sécurité de ces familles-là? En même temps, il y a aussi toute la question de la communauté, tu sais, cette municipalité-là, comment ça fonctionne simplement, les subventions pour ce genre d'infrastructure. Généralement, le gouvernement du Québec en met une part, des fois le fédéral, mais la communauté doit contribuer. La municipalité de Val-Joli a des surplus d'environ 800 000 $ non attribués à des projets ou à des infrastructures. Faudrait qu'ils en mettent une partie là-dedans pour que le gouvernement puisse ajouter sa contribution. Ça fait du sens. Mais il y a des citoyens qui s'opposent à ça parce qu'ils disent nous, individuellement, on n'est pas touchés. Fait qu'on veut pas que nos taxes puis que les surplus de notre municipalité servent
des
à
dommages,
aider
monsieur sur telle rue, là.
Des familles sur une autre rue. Non, mais on est rendu là dans la solidarité communautaire, là, de dire si je suis pas directement touché, toi, t'as pas d'eau potable, c'est ton problème, pas le mien, je vais pas t'aider. Je trouve ça hallucinant. Où en sommes-nous? C'est à ça que ça sert de se réunir ensemble dans des institutions publiques que sont les municipalités, les villes, les provinces.
Et pendant ce temps-là, on fait des campagnes de sociofinancement pour n'importe quoi sur le web.
Pour n'importe quoi, exactement. Non, mais c'est épeurant, d'une part, que ce soit pas réglé, d'autre part, qu'on soit pas capable collectivement, puis même du côté du gouvernement, de forcer la municipalité à prendre cette décision-là.
En tout cas, on leur souhaite pour les quelques citoyens qui sont touchés.
Puis tu sais, il y a un an, il y a eu... Les citoyens ne devraient pas avoir à faire les frais aussi du changement de gouvernement puis des changements de staff qui a peut-être eu dans t'sais, au
là,
bureau.
Le dossier passe au prochain.
Là, c'est un gros défi pour M. Bachand. Karine Vallière, l'an dernier, avait dit « À l'intérieur d'un an, c'est réglé. » C'est toujours pas réglé. Là, M. Bachand a pris connaissance du dossier, s'installe, mais c'est un gros défi pour lui, là, régler ça, ce serait, je pense,
un grand
une
coup.
Bonne affaire.
Une bonne affaire. Tu voulais nous parler également d'une décision de la Cour suprême sur la commission des valeurs mobilières.
Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver, la commission des valeurs mobilières? En gros, les valeurs mobilières, c'est les actions, les obligations. Donc, c'est l'organisme de réglementation qui encadre les transactions de cette nature-là. C'est une juridiction des provinces. Donc, dans chaque province, il y a un organisme provincial qui encadre ça. Depuis plusieurs années, au moins 15 ans, il y a des discussions, notamment l'idée par l'Ontario, pour créer une commission pan-canadienne. Sauf que c'est une juridiction québécoise, puis depuis toujours, le Québec a refusé catégoriquement de s'engager là-dedans. Le gouvernement fédéral avait fait un projet qui a été jugé par la Cour suprême en 2011. La Cour suprême a dit non, vous ne pouvez pas faire un projet unilatéral, c'est une intrusion trop grande dans le champ de compétences des provinces. Par contre, à cette époque-là, ils ont dit, par contre, un régime volontaire, un organisme fédéral dans lequel les provinces s'engagent de façon volontaire, ça pourrait marcher. Les autres provinces qui adhéraient à ça, là, toutes les provinces sauf le Québec, le Manitoba et l'Alberta, ont refait un projet sous forme de coopérative, je le dis en guillemets, mais
coopérative.
Dans lequel les provinces peuvent choisir de s'engager ou pas. Et là, la Cour suprême, vendredi, a dit « OK, ça peut marcher. C'est pas vraiment une intrusion dans le champ de compétences des provinces. S'il y a plusieurs provinces qui choisissent délibérément, volontairement de s'engager, vous pouvez créer une commission des valeurs mobilières nationales. » Pour le Québec, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Le premier enjeu, évidemment, c'est pour le secteur financier. T'sais, on perd des pouvoirs qu'on utilise nous-mêmes au profit de notre propre économie. Et ces pouvoirs-là sont en allée à Toronto, pas juste des pouvoirs, mais aussi de l'expertise, tout ça. C'est un levier de moins pour le Québec pour agir
en
économie. La deuxième affaire, c'est sur les compétences. T'sais. Ce fameux modèle de coop, là, ça veut-tu dire que dorénavant, sur tous les espaces de compétences qui sont aux provinces, dont au Québec, s'il y a plusieurs provinces qui décident qu'elles veulent agir collectivement ou via le gouvernement fédéral, elles vont pouvoir créer des organisations volontaires puis se mettre à agir en éducation, en santé, dans les champs de compétences qu'on exerce de façon plus prononcée. Tu sais, ça devient... Ouais, c'est vraiment particulier, puis c'est un risque très grand, je pense, pour le Québec, puis pour la redéfinition de la Fédération canadienne.
Donc, on a ouvert une porte. Là. C'est un peu le danger.
Ouais, on crée une brèche assez importante, je pense. Okay. Puis là, en fait, dans un secteur aussi qui, pour la moyenne des gens, c'est peut-être pas clair l'impact que ça peut avoir sur eux. Mais là, on peut s'en aller dans des secteurs où ça peut être beaucoup plus grave.
Belle Fontaine, merci beaucoup d'être passée ce matin.
À demain.
On se reparle demain.